C'est vrai que la dimension évidemment politique et communautaire a fait peur et on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, notamment je sais plus quelle chaîne de télé nous avait dit « Oh, on a fait un film de drag queen l'année dernière, on va pas en refaire un autre ». Donc les gens, voilà, les hétéros mélangent un peu tout. Et puis eux, ce serait marrant qu'on leur dise « Bon bah Guillaume Canet a fait un film l'année dernière, bon on va pas financer celui de Gilles Lelouch quoi, mais bon bref ».
Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette et vous écoutez le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Cette semaine, on a la chance de recevoir Alexis Langlois, réalisatrice du film Les Reines du Drame qui vient de sortir. Présenté à la semaine de la critique à Cannes, ce premier long métrage retrace l'histoire d'amour passionné de Mimi et Billy, deux stars que tout oppose. La première est une diva pop formatée par un télécrochet, la seconde une icône punk féministe. Dans ce film haut en couleur et très référencé, qui nous ramène aux années 2000 pour le meilleur et pour le pire, nous sommes guidés par une youtubeuse ultra botoxée, Stevie Shady, la plus grosse bitch des internets, interprétée bien sûr par Bilal Hassani. Si à tout cela on ajoute des musiques originales signées Rebecca Warrior et Yel, forcément ça donne une fable musicale résolument camp et queer, comme un petit cadeau pour notre communauté, un bonbon aussi sucré qu'un tube pop des années 2000.
Tes mots, tes promesses, tes caresses avec les yeux. Je ne suis pas celle que tu crois. Tes yeux sur mes fesses, quand moi je pense à nous deux. C'est dans l'amour que je crois. Je serai ton ascenseur émotionnel. Mais pour l'instant, pas
Alexis Langlois, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, je voulais savoir comment est-ce que vous décririez-vous le genre de votre film ?
Le genre, eh ben, c'est un film musical queer. Est-ce qu'on pourrait dire comédie musicale ? Ça, il y a débat, parce que voilà, il y a la je ne connais pas la définition comment dire, précise, mais en tout cas, les personnages ne se mettent pas tout à fait à danser et à chanter dans la rue, comme dans West Side Story ou dans... Les Demoiselles de Rochefort, mais c'est un film musical parce qu'effectivement toutes les chansons font avancer le récit et expriment toujours les changements intérieurs et les émotions des personnages, donc film musical queer, je pense que c'est une bonne définition.
Et donc pour ce film musical queer, pourquoi avoir choisi de raconter une histoire qui a lieu dans le futur ?
Parce que le film, j'ai tout de suite imaginé le film comme un conte, parce que dans les contes sont chargés de symboles qui nous parlent directement. Et voilà, je voulais vraiment que, en fait, parce que le film se passe dans le futur, mais parle surtout de nous aujourd'hui, et c'est toujours plus facile de parler de nous et essayer de choper quelque chose de plus intime et politique aujourd'hui. Et je pense que c'était important de faire ce pas de côté, et voilà.
Et par rapport au lieu, est-ce que c'est un peu un pas de côté aussi ? Il m'a semblé un peu irréel. Est-ce que c'est une sorte de monde rêvé, futur, une dystopie ?
Je sais pas de quel... En fait, le film se passe plutôt dans le passé, d'ailleurs, parce qu'en fait, il commence dans le... C'est un long flashback, quoi, le film, parce que le personnage de Stevie Shady, qu'incarne Bilal Hassani, c'est un YouTuber qui nous raconte l'histoire en 2055, mais ensuite, on remonte jusqu'à 2005. C'est comme un... le film est en studio parce qu'il y a vraiment quelque chose, je pense que ce qui pourrait vraiment décrire le film, c'est que tout est artificiel dans le film, donc il y a une manière parfois c'est comme dans les films de genre, tout est artificiel et en même temps il n'y a aucun autre moyen de se raconter intimement que par l'artifice, et ça je trouve que c'est une idée queer qui me plaît beaucoup. Donc effectivement il y a tout un travail de reconstitution, les décors se transforment à mesure que les personnages évoluent aussi, donc peut-être que cet espace qui peut avoir l'air artificiel, c'est aussi encore une fois se rapprocher du conte, se rapprocher de... tout est un peu symbolique dans ce film.
Et par rapport au costume aussi, j'ai eu l'impression que ça évoluait en fonction de l'intrigue aussi. Par exemple, ça devient de plus en plus dark, notamment pour les looks de Mimi. Est-ce qu'il y a un travail particulier sur la mode et est-ce que c'est inspiré du drag ?
C'est très marrant comme question parce que... Bah alors du coup, je pense qu'il y a plein de questions dans cette question. Oui, en tout cas, le film, que ce soit effectivement les costumes ou les décors, même la manière de jouer, c'est-à-dire que le film commence, c'est un peu l'idylle, un peu le rêve, un peu la naïveté des premières fois. Enfin voilà, quand on tombe amoureux pour la première fois et qu'on a l'impression que ça durera pour la vie et que tout va, voilà, comme sur la Yellow Brick Road, on avance comme ça et tout sera merveilleux. Et la seconde partie, c'est effectivement peut-être le réveil un peu brutal quand on se rend compte que malheureusement, même si on aime très fort, il y a peut-être aussi le monde extérieur qui va nous empêcher de vivre. C'est un peu ce qui arrive en tout cas à Mimi et Billy, quoi. A priori, elles étaient faites pour être ensemble malgré leurs différences, mais le monde les oppose, quoi. C'est pour ça que le film a une vraie dimension mélodramatique. Et ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose de drag dans le film, que ce soit sur le travail des costumes, des décors, etc. Je pense qu'effectivement, drag est théâtral. Et c'est vrai qu'avec les actrices, Joe, Louisa et Bilal en particulier, on a longtemps travaillé, parce que c'est un film qui convoque quand même pas mal d'émotions très intenses. Et l'idée, c'était... il fallait se jeter à fond dans ces émotions passionnées, le drame qui se trouve jusqu'au titre, et en même temps l'idée c'était de pas le faire en souffrant, notamment il y a plein de techniques de jeu, je sais pas si on pense à la méthode justement post-Stanislavski, etc., où c'était aller chercher des souvenirs traumatiques pour jouer des séquences, et nous l'idée c'était de éviter ça à tout prix. Et on a essayé de créer notre propre méthode qui était, on a beaucoup rejoué des scènes de film, on a beaucoup essayé de, encore une fois, faire un pas de côté, comme le conte, comme ce qu'on a fait pour le conte, ce que je disais tout à l'heure, pour essayer de trouver des émotions sincères, mais de passer par autre chose. Donc ça reste très intime, mais on ne joue pas avec les traumas. Donc je pense que dans cette idée de refaire, il y a effectivement quelque chose qui vient de l'ordre du drag, effectivement.
Et je voulais savoir aussi comment est-ce que vous décririez votre goût, votre esthétique. J'ai entendu que parfois les gens parlaient de kitsch et que c'était pas un mot qui vous convenait vraiment. Est-ce que, comment vous, quel mot vous décririez, vous choisiriez si vous deviez décrire votre goût ?
Non, à vrai dire, j'adore kitsch. C'est pas du tout un. Pour moi, kitsch, c'est. Oui, si c'est en phase avec justement le drame, en faire trop, peut-être aussi ce qui n'est pas forcément de bon goût. Après, ce qui me gêne, c'est que les gens parfois décrivent le film uniquement comme ça. Et je pense aussi que kitsch, pour moi, comme camp ou comme. Camp surtout, et queer en fait, c'est aussi, on peut pas le vider du sens politique, et que quand les gens utilisent le mot kitsch, je trouve que souvent ça réduit à il y a des froufrous et des paillettes, et là certes il y a des paillettes, mais il y a aussi de la colère, et c'est pour ça que quand peut-être ce que vous avez lu, ce que tu as lu peut-être dans l'interview, où je disais que j'aimais pas le kitsch, c'était que qu'on réduise le film à ça. Et pour moi, le film est aussi profondément queer, profondément politique. Et même le fait d'utiliser le kitsch comme ça, c'est aussi presque en opposition à une obligation du naturalisme qu'il peut y avoir, par exemple, dans le cinéma français, surtout pour les premiers films. Et donc, c'est pour ça que kitsch, oui, mais le kitsch, comme le... d'ailleurs, c'est comme le mot queer qui, parfois, peut être complètement vidé de son sens politique. C'est là où je n'aime pas. Et moi, je suis pour réutiliser ces mots-là, mais évidemment, il ne faut pas oublier leur sens premier, ou en tout cas, ouais.
Et donc par rapport à cette dimension politique du film, vous avez choisi le monde du spectacle, et donc on y croise dès le début l'univers des télécrochets, avec une référence très précise à une célèbre émission de M6. Vous dépeignez une industrie cruelle qui crée des succès rapides en malmenant ses artistes, mais on sent aussi une forme de tendresse. J'imagine que ce sont des émissions que vous avez regardées quand vous étiez enfant et qui vous ont poussé à choisir ce domaine-là pour raconter votre histoire.
Oui, comme le film, je savais dès le début que ça allait être une comédie musicale, il fallait encore une fois incarner symboliquement le monde, la norme, le patriarcat, etc. Et comme les deux protagonistes principales, Mimi et Billy, sont des chanteuses, il fallait que ça se passe dans le milieu de la musique. Donc c'est à la fois évidemment d'une certaine manière une critique du milieu de la musique, mais pour moi le milieu de la musique, comme d'ailleurs le milieu du cinéma ou plein d'autres milieux artistiques, ce n'est qu'une image, une représentation de ce qu'est la société aujourd'hui. aujourd'hui, je crois, et notamment qui peut broyer les destins des personnes queer. Et je pense que ça a assez peu changé, finalement, quand on voit d'ailleurs la montée du fascisme un peu partout. Donc oui, encore une fois, c'est les télécrochés, mais c'est vraiment un symbole pour parler surtout de la dictature de la norme et de la difficulté que ça peut être pour des personnes queer d'affirmer vraiment qui ils sont.
Et par rapport à cette violence, il y a notamment une référence très explicite à Britney Spears. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous? Pourquoi elle a un peu sa place dans ce film?
Ben oui, il y a effectivement plein de citations de Britney Spears qui sont peut-être les plus évidentes. Après, les personnages sont un peu un amalgame de plein de chanteuses qui ont servi à l'écriture pour créer ces personnages. Donc, effectivement, Mimi, au début du film, c'est un peu Britney Spears, un peu Laurie, un peu Priscilla. Un peu Mariah Carey, voilà, et c'est pour faire un personnage singulier. Et le film, d'ailleurs, il est dédicacé au diva has-been, et l'idée, c'était aussi de faire une grande histoire, un grand mélodrame avec celles qu'on pense pas assez intéressantes ou un peu frivoles pour ces grandes histoires-là. Et moi, je me suis dit, j'ai envie vraiment de regarder, que les spectateuristes voient avec mon regard amoureux toutes ces chanteuses qu'on dit has-been ou ringardes, etc. Donc là, s'intéresser aussi à une chanteuse comme Britney Spears. D'ailleurs, c'est drôle, quand ces images sont sorties, notamment de son rasage de tête, etc., c'est à l'époque, les gens étaient plutôt moqueurs. Et là, c'est vrai que le temps fait qu'on revoit ces images aussi avec un prisme plus féministe. Pardon. Et le film fait exactement ce mouvement-là, dit attention, pourquoi dès qu'on aime une icône, on est obligé de la détruire. Et donc là, c'est ce qu'on a fait avec Britney Spears, c'est le temps qui a fait qu'on a un regard plus doux sur elle. Mais là, le film essaie de dire peut-être n'attendons pas 20 ans pour avoir un regard plus doux sur nos icônes, quoi.
Et donc, j'ai eu l'impression de voir un peu une célébration de la pop culture des années 2000. Et c'est vrai que... Il y a une sorte de retour à... Enfin, les queers actuels reviennent un peu à ce goût-là, j'ai l'impression. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer ce retour? Par exemple, Alizée faisait son retour sur la scène de l'Olympia, et plus récemment, on appelait à une libération de Britney Spears. Pourquoi est-ce qu'en fait, les queers d'aujourd'hui, ça leur parle?
Je pense qu'il y a deux choses. Encore une fois, c'est qu'il y a une envie peut-être de justice, c'est-à-dire peut-être de regarder avec un regard plus queer toutes celles dont on s'est moqué pendant très longtemps. Enfin, quand je dis nous, c'est plutôt les gens en général, pas forcément nous les queers, évidemment. Et je pense aussi qu'il y a une raison toute bête, c'est que, en fait, moi, là, par exemple, je parle de mon enfance et de mon adolescence, et peut-être que les queers qui, aujourd'hui, sont peut-être plus en âge d'affirmer leur goût, c'est aussi un peu leur génération. Donc je pense qu'il y a comme ça quelque chose d'un peu réconfortant, pas mélancolique, mais oui, comme une madeleine, quoi. On se rappelle aussi des chanteuses qu'on a aimées très fort avant. Peut-être qu'il y a ça qui... Ouais, pardon, je ne sais pas comment finir cette phrase.
Il y a une phrase dans ce film qui est prononcée par Billie qui a retenu mon attention, et elle dit...
Je sais ce que c'est.
Sans les Spice Girls, j'aurais jamais lu Monique Wittig. Est-ce que vous direz que donc la pop culture, c'est une sorte d'étape des combats portés par la communauté queer?
Ouais, moi j'y crois de ouf. Ne venant pas d'un milieu ni cinéphile ni cultivé, moi c'est vraiment la télé, la musique populaire qui m'a fait découvrir plein d'autres choses. C'était une sorte de porte d'entrée vers des milliards d'autres choses. Et c'est pour ça que le film essaie vraiment de, comme je disais tout à l'heure, faire une grande histoire avec un matériau que tout le monde trouve pas noble ou inintéressant. Le film décrit exactement le contraire, et justement que la beauté peut se trouver partout. Et c'est vrai que les Spice Girls, sans les Spice Girls, j'aurais jamais lu Monique Wittig. Je crois que c'est une des phrases qui décrit le mieux le film et qui me décrit le mieux moi. Et c'est vrai. Et je pense qu'il y a des connexions qui peuvent se faire entre plein de choses. Moi, j'ai commencé à être cinéphile en regardant Buffy contre les vampires. Et de Buffy, j'ai découvert Cronenberg, puis Cronenberg, j'ai découvert d'autres cinéastes. Et puis finalement, toute ma cinéphilie, on pourrait dire que c'est en tirant le film de cette série. Et pareil, les Spice Girls, quand on entend... Après, ça, tout est critiquable, mais je sais que par exemple, pour toute une génération, peut-être celle juste après moi, quand Beyoncé est devenue féministe, finalement, ça a créé plein de bébés féministes et qui ensuite, sans doute, ont lu plein d'autres choses. Et je trouve que c'est un geste assez beau.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Kiko, kiko, kiko! Ah, hey, oh là là! Oh, mais Mimi Ratrice, ça faisait un bail. Eh, elle est pas mal conservée, la vieille. Fuck you, Mother Nature.
Et thank you, fillers.
What? Vous me reconnaissez pas? Je vais direct vous rafraîchir la mémoire, les morues. Dans les 2010s, j'étais la plus grosse bitch des internets. On m'appelait Stevie Shady. Oh, yeah.
C'est aussi un film où vous avez fait jouer des actrices débutants et débutantes. Est-ce que, enfin, j'imagine qu'il y a quelque chose un peu en lien avec ça, le fait de découvrir et de transmettre un message alors qu'on n'a pas forcément un bagage culturel qui est lié à tout ce qu'on raconte. Donc Bilal Hassani incarne Stevie Shady, Louisa Aura, Mimi et Joe Ventura, Billy. C'était quelque chose qui importait pour vous? Comment est-ce que se sont déroulées un peu vos rencontres avec, avec vos acteurs et actrices?
Oui, bah c'est vrai qu'il y avait une volonté. Pour moi, c'était quand même évident de pas aller vers un cast tout à fait évident. Et j'ai aussi essayé de faire un cast le plus queer possible et le plus aussi assez intersectionnel, que toutes les personnes ne viennent pas du même milieu, que toutes les personnes ne soient pas blanches. Et donc ça, c'était vraiment une volonté aussi de montrer un peu la communauté dans laquelle je suis, et qui est toute sa richesse, quoi, enfin que ça soit pas juste un certain type de personne. Et ensuite, ben les rencontres, ben Bilal, on s'est rencontrés d'abord sur les réseaux parce que Bilal avait vu un de mes cours et on avait commencé à se parler comme ça. Et ensuite, ma productrice m'a un peu poussé à lui proposer le rôle de Stevie. Et moi, j'y croyais pas trop. Je pensais pas que le cinéma pouvait l'intéresser. Et finalement, voilà, le projet, je pense, lui a plu. Et aussi bien l'histoire, le rapport à la pop culture, que le fait aussi de jouer ce personnage, vraiment un rôle de composition, quoi. Donc je pense que ça, c'était un peu excitant. Parce que je crois qu'on lui avait déjà proposé des rôles, mais c'était toujours un peu soit un peu trop réaliste, soit un peu, ouais, je sais plus, je crois que c'était un peu je suis dealer le jour et drag queen la nuit, quoi. Donc encore certains clichés qu'on peut mettre aux personnes soit queer, soit racisées. Et après, Joe et Louisa, je les ai rencontrés de manière beaucoup plus classique en casting. Et je dois dire que assez rapidement, ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait pour jouer les rôles, selon moi, c'est-à-dire à la fois cette aura de star, parce que voilà, il fallait incarner ces deux chanteuses, et en même temps aussi une vraie fragilité, en tout cas la vraie, ils osaient montrer leur fragilité, et ils avaient ce jeu à fleur de peau, et pour moi il fallait à la fois avoir cette aura de star, mais aussi il fallait, parce que c'est des rôles qui traversent plein d'émotions très très intenses, et ils avaient ces deux facettes-là, et c'est ça qui m'a... Et surtout, enfin, quand ils se sont rencontrés, c'est vraiment l'alchimie qu'il y avait entre les deux, ça c'était primordial pour jouer ces personnages.
Et par rapport à l'expression de ces émotions, j'ai l'impression que la musique joue vraiment un rôle clé, puisque c'est surtout quand les personnages chantent qu'il y a une sorte de révélation de qui ils et elles sont vraiment. Est-ce que c'était une volonté de votre part de considérer la musique comme un objet à part entière dans ce film ?
Oui, complètement. C'est vraiment moi ce que je trouve beau dans les comédies musicales, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est tout ce qui paraît artificiel, en fait, c'est le chemin direct pour accéder au cœur des personnages. Et donc là, les chansons, elles évoluent, elles font avancer à la fois le récit et elles se transforment à mesure que le personnage se transforme aussi. C'est pour ça que le film, on traverse plein de types de chansons différentes. Et d'ailleurs, ça, c'était très important. C'est que moi, je suis complètement folle de comédie musicale, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est très rare qu'il y a plusieurs compositeuristes pour les comédies musicales. Par exemple, je pense, pour donner deux exemples, West Side Story ou Cry Baby, que ce soit les deux bandes opposées, c'est la même personne qui compose. Et là, l'idée, c'était vraiment comme le film essaie de montrer que finalement, essaie de créer du lien là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, le monde extérieur essaye d'opposer Billy parce que soi-disant, elles ne viennent pas du même milieu. Soi-disant, c'est des mondes qui ne peuvent pas se rencontrer. J'essayais que le film montre exactement l'inverse. C'est-à-dire de créer des rencontres entre différents types de musique qui existent et que moi j'aime dans la vie. Donc c'est pour ça que c'était très 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 important de réunir des personnes qui viennent de genres musicaux très différents. Et donc effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Yael et Rebecca Warrior qui ont fait Yael les deux morceaux de Mimi et Rebecca Warrior les morceaux de Billy Collaire. Et il y a aussi d'autres personnes. Il y a Mona Soyok qui a fait une chanson, la chanson de Ellie Moore et Magali Charmer, des chanteuses qui viennent des années 80. Il y a Pierre Desprat qui a fait à la fois la musique du film et deux chansons du film, notamment la chanson des retrouvailles. Et enfin, Louise Bizou qui a fait la chanson du futur. Et ça, c'était vraiment de mélanger ces différentes personnes, différents artistes. Je pense que c'est vraiment ce qui fait le film, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir, que tout va ensemble et tout crée une harmonie. Ouais.
Et on vous connaît aussi comme réalisatrice de clips musicaux, comme récemment celui Haut en couleur de Call Me, le tube hyper pop d'Eloi. En quelle mesure ces expériences vous ont-elles influencé pour réaliser Les Reines du Drame?
Ben ça, je sais pas trop, parce que je crois que quand je fais des clips, moi c'est plutôt inspiré du cinéma, enfin en vrai c'est toujours plutôt comme des films, quoi. Je les pense plutôt comme ça. Après il y a peut-être un rapport à la musicalité qui a aidé, peut-être un goût de la musique qui aide pour faire une comédie musicale, mais c'est vrai que les clips que j'ai fait, je les ai toujours plutôt pensés. D'ailleurs il y a toujours des petites narrations, et c'est pas des clips purement formels comme d'autres font, donc c'est plutôt je dirais c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt de faire des films qui a inspiré le fait de faire la manière dont j'ai pu faire des clips, quoi.
D'ailleurs j'avais quelque chose à vous dire. Je suis gay.
On parlait de l'industrie de la culture tout à l'heure. Des acteurs incontournables de ce monde du spectacle, ce sont les influenceurs. Donc, dans votre film, l'histoire des Reines du Drame nous est racontée par une youtubeuse, Stevie Shady. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous avez voulu montrer la place que les influenceurs et les influenceuses ont aujourd'hui dans le récit commun, dans l'imaginaire collectif?
Ben oui et non. Pour moi, ce n'est pas vraiment influenceur. Je trouve assez différent de youtubeur. Le film, bah oui, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'était de faire un conte, notamment c'était en voyant une vidéo de Bilal qui racontait son coming out, donc c'était il y a 6 ans, c'était au tout début de l'écriture du film. J'avais été assez sidéré de la manière dont il racontait cette histoire terrible, avec une sorte de, pas de légèreté, mais en tout cas on sentait qu'il voulait vraiment donner de la force à sa communauté. Et cette vidéo m'avait bouleversé et je m'étais dit, ah, en fait les youtubeurs, c'est un peu les conteurs des temps modernes. Donc finalement, voilà, je savais qu'il y avait un personnage de conteur dans mon film, mais c'est vrai que le fait que ce soit un youtubeur, c'est finalement Bilal, bien avant la vraie rencontre, qui a plutôt injecté ça. Et après, oui, je pense que c'est des personnages qui... les youtubeurs, notamment. Après, peut-être les influenceurs, mais je suis plutôt des youtubeurs que des influenceurs. Mais oui, je pense que... Et c'est aussi eux qui ont une manière de créer du récit, et c'est surtout, j'aime vraiment la manière dont ils parlent à leur communauté, et ça, c'est un lien que je trouve assez beau et que j'avais envie de mettre en scène dans le film. Et aussi, c'est au-delà d'être un youtubeur, c'est un fan, et je suis fasciné par l'amour passionné des fans complètement démesuré, parfois pour le meilleur et pour le pire. Mais ça, je trouve que c'est un matériau de cinéma assez ouf de montrer cette passion-là.
Et donc, le film nous raconte cette histoire d'amour passionnel et qui mêle aussi concurrence et jalousie. Vous avez raconté que c'était une histoire inspirée de la vôtre, et le film est d'ailleurs dédié à celui qui a inspiré le personnage de Mimi, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça.
Et donc,
mais j'en dirai pas plus.
Et cet amour, il est aussi impossible à cause de leur environnement. Est-ce que vous vouliez aussi critiquer via ce film une société homophobe, patriarcale, classiste qui empêche parfois les personnes queer de vivre pleinement leurs désirs?
Oui, complètement. Le film est vraiment aussi, dans l'écriture, il est inspiré de films. Donc il y a le Rise and Fall dont vous parliez, mais aussi effectivement des mélodrames. Comme les mélodrames de Sirk ou les mélodrames de Fassbinder, enfin d'ailleurs Sirk qui a lui-même inspiré Fassbinder, où effectivement c'est des personnages qui, dans ce monde ultra normé, ne peuvent pas s'aimer, et ça crée effectivement des situations assez dramatiques et mélodramatiques. Donc oui, c'était complètement pour raconter ça. Je pense que ça peut être encore aujourd'hui très difficile pour des personnes queer de vivre tout à fait correctement parfois, parce que finalement la norme elle s'injecte partout, et c'est vraiment très très compliqué de dire qu'on vit, enfin je pense que c'est impossible que cette norme n'ait pas un impact sur nous, même si on essaie de ne pas l'être, mais elle s'infiltre un peu partout, et c'est ça qu'essaye de montrer le film.
Et donc produire un tel film qui qui raconte une histoire qui n'est pas forcément dans la norme, j'imagine que c'est un défi. Vous n'avez pas bouclé entièrement le budget de ce film, que vous avez donc tourné avec des moyens réduits en 25 jours de tournage, c'est peu.
Vous êtes bien informé.
Comment vous l'expliquez?
Ben, je l'explique déjà, je pense que c'est toujours compliqué de faire un premier long métrage. Donc voilà, je pense que malheureusement c'est assez courant, et en plus je pense qu'on se facilite pas la vie quand c'est un premier long métrage queer, en plus qui n'est pas réaliste, parce que je pense aussi quand il y a une ambition comme ça un peu formelle, justement de plutôt avoir des références de cinéma classique, notamment hollywoodien, de faire un mélodrame, etc., je pense qu'il y a quelque chose dans la forme aussi qui doit questionner. Donc on chargeait un peu la barque, quoi. C'était à la fois queer, en plus un mélodrame, en plus une comédie musicale. Donc je pense que les gens, il y a certaines personnes, ça leur tombait un peu des mains. Et oui, c'est vrai que la dimension évidemment politique et communautaire a fait peur, et on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, notamment je sais plus quelle chaîne de télé nous avait dit « Oh, on a fait un film de drag queen l'année dernière, on va pas en refaire un autre film qui, voilà, je tiens à dire, même s'il y a deux personnages de drag queen, mais qui sont assez quand même, c'est plutôt des rôles secondaires, c'est queer, mais ce n'est pas un film de drag queen. » Donc les gens, voilà, les hétéros mélangent un peu tout, et puis eux, ce serait marrant qu'on leur dise « Bon, bah, Guillaume Canet a fait un film l'année dernière, bon, on va pas financer celui de Gilles Lelouch, quoi, mais bon, bref. » Et donc oui, et en plus c'est ça, et d'ailleurs ça c'est assez, enfin je fais une blague, mais c'est vrai que c'est assez énervant, parce que le fait aussi qu'il y ait toujours qu'on soit toujours mis en comparaison comme s'il y avait un peu une seule place pour les personnes queer, ou d'ailleurs c'est pareil dans toutes les minorités, c'est vraiment vraiment agaçant, voire même ça me met très en colère, parce que je pense qu'il y a des regards queer, enfin c'est pas je pense, il y a des regards queer, et Dieu merci tous les films queer ne ressemblent pas aux Reines du Drame, et il faudrait pas qu'il y ait que ça, et c'est pas parce que les Reines du Drame existent qu'il faut pas laisser, au contraire il faut plutôt que ça ouvre la voie à d'autres cinéastes, plutôt que ça ferme, comme s'il y avait qu'une, voilà, que ce petit espace soit pris, je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde et tous les récits, et il faudrait plutôt essayer que ce film, enfin voilà, moi c'est pour ça que dès que je peux prendre la parole, je dis il y a vraiment plein d'autres réalisateurs queer qu'il faut aider et qui vont faire des choses extrêmement différentes et singulières.
Et justement, donc ce film, il est queer dans sa forme mais aussi dans sa production. Est-ce qu'avec les Reines du Drame, vous avez essayé de trouver d'autres manières de faire du cinéma?
Ben oui, après c'est toujours un laboratoire, on tente des choses, on essaie, et aussi bien sur le plateau, dans ce qui est filmé, mais aussi la manière de faire. C'est vrai que là, déjà, d'avoir essayé de constituer une équipe entièrement queer, quasiment, voilà, elle l'était pas, mais on a vraiment essayé de travailler au maximum avec des personnes de la communauté. C'est déjà essayer de faire quelque chose de différent, d'essayer d'avoir un casting, comme je le disais tout à l'heure, queer, pas que blanc, pas que, enfin voilà, en fait tout ça, de montrer des personnes qui moi font partie de, enfin voilà, de mon entourage, quoi. Ça c'est, et puis après dans la manière de travailler, je pense que c'est donc un film, c'est quand même c'est moi qui le porte, parce que je le portais pendant 6 ans, etc. Mais après c'est vrai que après avoir rencontré les collaboratrices, donc déjà il y en a plein avec qui j'avais travaillé, que ce soit à l'image, au décor, à la musique, au graphisme. Donc c'est aussi de créer des relations un peu fortes et singulières, enfin qui ne soient pas juste dans une hiérarchie un peu bête et méchante de cinéma. Et c'est vrai qu'après, avec les actrices, je sais que par exemple, il y avait le chemin de Billy et Mimi qui était très tracé, mais c'est vrai qu'après les longs mois de répétition, quasiment 10 mois de répétition avec Joe et Louisa, et ben c'est vrai que les rôles, je les ai un peu réaffinés avec leurs propositions, enfin je les refaçonnais les rôles presque sur les deux, quoi. Et c'est ça aussi, je pense, être queer, c'est être dans la discussion et de penser que les meilleures idées, elles viennent pas forcément de nous, et c'est d'être à l'écoute de toutes les propositions de tout le monde, quoi.
Merci beaucoup Alexis Langlois d'être venu parler avec nous.
Merci à vous.
De votre film Les Reines du Drame, sorti en salle le 27 novembre dernier. J'invite tous les auditeurs à aller voir cette belle comédie musicale queer. On a parlé de Rebecca Warrior tout à l'heure, qui signe donc une partie de la bande originale des Reines du Drame. On l'écoute tout de suite avec le dernier titre du duo Compromat, Lift Me Up, un titre à retrouver sur leur prochain album Playing Praying, qui sort le 24 janvier.
Je t'envoie
Cette émission a été présentée par Juliette Moulic et réalisée par Colin Gruel. Tous nos épisodes sont à retrouver sur le site Radio Campus Paris et sur les applications de podcast. On se retrouve vendredi prochain. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt.